Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Eh ben, bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Micro-ondes, l'émission qui prend les ondes sur Radio Campus Grenoble 90.8 et l'émission qui vise à relayer les luttes, notamment sur la cuvette grenobloise. Pour cette émission, donc déjà ça fait hyper plaisir de reprendre une émission en plateau avec des invités et donc on est au studio du Ciel avec tout un tas de collectifs. La thématique de ce soir, c'est une double actualité, on va dire. C'est une première actualité internationale qui est ce qu'on appelle poliment, entre guillemets, le conflit israélo-palestinien et qui est un génocide qui est en train de se passer à Gaza. Et du coup, on a avec nous un collectif Urgence Palestine qui sera là pour en parler. Et on avait envie de faire la passerelle avec ce qui se passe plus localement à Grenoble et qui sont la critique de nombreuses entreprises travaillant sur les questions technologiques à Grenoble et notamment le fait que derrière une façade un petit peu green, nouvelle technologie, c'est l'avenir, c'est le futur, etc., on se rend compte que ces entreprises notamment fournissent aujourd'hui un certain nombre de puces, un certain nombre de matériel pour des armes et donc pour faire la guerre. On avait du coup un peu envie de faire la passerelle finalement entre ces deux luttes et de montrer comment localement on peut aussi dénoncer et lutter en général contre la prolifération des armements et des politiques impérialistes dans le monde. Merci du coup, j'ai parlé du coup rapidement du collectif Urgence Palestine. Merci aussi du coup au CRAM et à Stop Micro d'être ici autour de la table. Peut-être qu'on peut commencer justement par un petit tour de présentation des différentes personnes qui sont là.
Je peux commencer pour Stop Micro. Donc moi, c'est Romain. Moi, j'ai rejoint le collectif pas loin après ses débuts. Donc le début du collectif, c'était l'automne 2022, après les annonces du président de la République, qui est venu en grande pompe ici à Grenoble pour nous parler de l'agrandissement, du triplement de la production in fine de l'usine de ST Microelectronics avec un gros investissement étatique de 2,9 milliards d'euros dans le but donc de produire encore plus de puces. Et alors c'est assez mal tombé étant donné que c'était en pleine période de pénurie et une semaine avant des restrictions de passage en plan de vigilance orange de sécheresse en fait sur la région, sachant que le triplement de la production ça allait avoir comme conséquence au moins le doublement de l'usage de l'eau par l'usine. Et donc le collectif est né à partir de là et se pose des questions désormais plus sur l'axe à quoi sert cette usine, quels sont les choix de société faits autour de cette question, au-delà de la question écologique des accaparements d'eau, mais aussi de la question justement des usages. Et on en reparlera évidemment de la question de la production d'outils pour le secteur militariste.
Moi, je m'appelle Fab et je fais partie de la CRAM, la coordination régionale anti-armement et militarisme. Et c'est une coordination où ça démarre à peu près il y a 2 ans et demi. Il y a 3 comités. Il y a un comité lyonnais, c'est le plus important. Ils sont à peu près une dizaine. Il y a un petit comité grenoblois et un petit comité stéphanois. Et parce qu'on s'est aperçu que dans ces 3 villes, il y avait des entreprises locales qui fabriquent de l'armement et notamment des PME. Et on s'est basé sur un texte de l'Observatoire des armements qui s'appelle « Les guerres se fabriquent près de chez nous », qui dénonce justement ces PME en Rhône-Alpes-Auvergne. Et du coup, ça nous a donné l'énergie de fonder cette coordination où en fait, on fait des petites actions et on se renforce mutuellement quand il y a une action dans une ville ou dans une autre.
Moi, c'est Kevin, on fait partie d'Urgence Palestine. Et du coup, on est arrivé sur le thème en passant. Il y a plusieurs groupes dedans, dont BDS, donc c'est boycott, désinvestissement et sanctions, sur lequel il y avait des gens actifs. Et il y a eu en mois d'octobre ou novembre, je crois, juste au début de la guerre, le collectif Stop Arming aussi qui avait été créé. Et pour faire écho à ça, Urgence Palestine, on s'est intéressé à ce qui se passait autour de Grenoble. On est rapidement tombé sur ST. Du coup, on a pu rencontrer des personnes de Stop Micro et participer à la manifestation. Et on a vu que en fait, c'était beaucoup plus large que ça sur le... s'intéressant au sujet autour de Grenoble, quoi. Et pareil, on a pu se nourrir un peu de ce qui se fait avec l'Observatoire de l'armement sur la coopération France-Israël qui a déjà commencé depuis le début, en vérité, et qui est bien plus présente aussi ces 30 dernières années.
Moi, c'est Ali, je fais aussi partie d'Urgence Palestine. J'ai rejoint le collectif récemment, il y a 2-3 mois. Et effectivement, je suis dans le groupe plutôt boycott, désinvestissement sanctions, et on travaille beaucoup sur le bassin grenoblois de partenariat industriel et académique entre le bassin grenoblois et Israël. Et donc pareil, ST était le meilleur candidat pour nous. Et donc merci Stop Micro pour tout le travail que vous avez fait avant. Et donc on essaie de reprendre un peu déjà pas mal de travaux qui ont été faits par pas mal de collectifs, dont Stop Arming, donc l'Observatoire de l'armement, et de plein d'autres personnes, et d'essayer de l'adapter un peu plus aux boîtes grenobloises. Et il y en a beaucoup. Je pense qu'on va beaucoup en parler pendant l'émission.
Okay. Merci Ali. Moi, je me présente. Moi, c'est Jou. J'anime ma première émission sur micro-ondes aujourd'hui. Et j'ai peut-être un petit rappel avant que tu passes à la lecture de l'historique. Je pense que j'avais juste envie de dire que la France, depuis, je dirais une dizaine d'années, elle est systématiquement dans le top des 5 exportateurs d'armes au monde. Et du coup, cette année, en 2024, en avril, elle est passée deuxième derrière les États-Unis et devant la Russie. Voilà, on avait envie de passer à un peu d'histoire, je crois.
Ouais, exactement. Ça me laisse penser que moi non plus, je ne me suis pas présenté. C'était un peu dans le stress et un peu mal poli. Mais du coup, donc, Baptiste de Micro-Ondes. Et puis, j'en profite pour remercier Rafa qui fait la technique de cette émission.
Merci.
Merci, Rafa.
Merci.
En tout cas, du coup, ça me laisse penser. En effet, le fait que la France soit deuxième exportateur d'armes, on avait envie juste de rappeler le rôle que joue Grenoble dans cette production d'armes, etc. Donc, on a passé quelques petits... extraits d'une brochure qui s'appelle Capitale verte kaki, l'alliance des blouses blanches et des képis dans la Silicon Valley à la française. Voilà, et du coup, je vous l'ai dit. À la fin du 19e siècle, Grenoble, petite ville de province, mute complètement avec l'arrivée de la fameuse houille blanche, la force hydroélectrique, élaborée par le premier ingénieur grenoblois Aristide Bergès. De nombreux industriels s'installent alors dans le coin pour profiter de cette manne. Et les élus de l'époque favorisent cet essor en créant notamment une des premières chambres de commerce et d'industrie, la CCI. Puis patatras, c'est la Première Guerre mondiale, et Grenoble, avec son tissu industriel maintenant bien fourni, a toutes ses chances pour être un des centres de l'effort de guerre nationale. 9000 obus par jour sortent des usines Bouchaillé-Vialet, les établissements Jet et Jalifère fournissent des fourgons mortuaires, l'usine Progil est créé à Pont-de-Clay pour la fabrication d'un dérivé chloré, le phosgène ou gaz moutarde. Toutes ces innovations de mort étaient imaginées par des scientifiques et ingénieurs des universités locales, comme le célèbre Georges Fluzin, chimiste du chlore. Belote et rebelote avec la Seconde Guerre mondiale, mais de manière plus élaborée. On arrête le bricolage cette fois. Un triangle de fer, entre la recherche, l'industrie et l'armée, se structure au début de la guerre, notamment au sein du CNRS récemment créé. Les scientifiques, encadrés par les militaires, ne montent plus au front, mais restent dans leur laboratoire pour la mobilisation scientifique. Et sur ces entrefaites, Louis Néel, ingénieur de la marine, expert en magnétisme, débarque après l'armistice en zone libre à Grenoble. Grâce à un réseau de chercheurs et de militaires démobilisés, il prend la tête du plus gros laboratoire local, le LEM. Géré de manière mixte entre l'Université de Grenoble, le CNRS, et les industriels locaux tels que Ugine ou Merlin-Gérin. Sur l'ancien hexagone militaire de la presqu'île de Grenoble, entre le Drac et l'Isère, Néel parvient à faire venir la première antenne provinciale du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, un organe civilo-militaire responsable de l'arme atomique et de la filière électronucléaire française.
En tant qu'artiste, j'ai mené une recherche avec des enseignantes chercheuses du LEUGA. Voici une compilation d'extraits du livret coécrit à la suite de cette recherche, dont le titre est « Violente paix ». Le quartier de la Presqu'île est au cœur de son développement technopolitain. Par un campus alliant recherche, industrie et militaire, unis dans un projet giant. La Presqu'île est une écocité, un territoire démonstrateur de la transition écologique par un projet urbain mêlant résidentiel et tertiaire, comprenant des innovations technologiques et techno-écologiques. Bâtiments très basse consommation, des ressources géothermie, bâtiments démonstrateurs ABC, mobilité douce encouragée. Il s'agit de questionner les récits qui sous-tendent le projet innovant grenoblois et de nous confronter aux ambiguïtés de l'imaginaire de la transition écologique. Car les récits de la transition écologique masquent les politiques martiales qui entrent dans la production de technologies de pointe. Si les programmes de recherche nucléaire civile ont été menés sur la Presqu'île, sont directement issus de la doctrine « Atomes pour la paix » du président Eisenhower, qui voulait diffuser les usages pacifiques de la technologie nucléaire. De quelle paix s'agit-il? Produire d'autres récits, c'est questionner l'image verte que se donne Grenoble pour cacher sa couleur verte kaki, terme emprunté au collectif Rotendic.
Peut-être que là, je vais m'arrêter à 2 minutes parce qu'il y a quand même un intérêt avec ces bâtiments démonstrateurs. C'est un laboratoire à ciel ouvert où en fait des familles sont testées dans leur adaptabilité aux technologies domestiques. Et donc du coup, le bâtiment A ou le B, je ne me souviens plus l'ordre, hein, le A, il teste les familles sur, si elles, pour prouver si elles, sont, si elles arrivent à être adaptées aux technologies d'aujourd'hui. Et puis le B, c'est sur les technologies de demain.
On se propose juste une petite pause musicale et puis on revient juste après avec vous pour voir comment cette guerre ou ces guerres se produisent justement, se fabriquent juste à côté de chez nous.
صفر واحد ما في مشاعر بيخطف الواحد وهو مش شاعر شعرت ومجنون بالآخر مين العاقل مين العاقل ليش مش واصل صوته بجاوب ما حدا سائل مين العاقل مين العاقل عيوغير طوقع يقرب المكان بوقع نعلي نسير بودي منعلي نسير هوين في مكان تطرقن فيه
أفكار الناس وإحنا نسويها لن يصبح حتى يجيء لن يصبح حتى يجيء في مجيء الشمس في ظهورها الصبح أنا أنطلق أشرب وأدوم في مكاننا أعمل في بلقاننا إيه فضلهم في قرار الصبح في ظهور في مكاننا واحد يمشي حافي اسمع شو كان يحكي الكدافي انت العاقل سفر واحد يدوي طافي تفر الواحد يمشي حافي اسمع شو كان يحكي الكدافي انت العاقل.
Et vous êtes toujours donc sur micro-ondes Radio Campus Grenoble 90.8 pour une émission qui vient souligner comment les guerres et comment notamment la guerre et les bombardements à Gaza aujourd'hui se fabriquent entre autres près de chez nous et comment on peut lutter contre ça. En parlant de bombardements à Gaza, on vient du coup d'écouter une chanson de Chabjid et Al Nater for Johan Shafadi. Voilà, je ne pourrais pas prononcer le nom de la chanson en arabe. Vous m'excuserez, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un artiste palestinien qui, du coup, a produit plusieurs chansons sur ces questions. Et sans plus attendre, du coup, je propose de donner la parole à Urgence Palestine, justement. Pour vous, dans les premières recherches que vous avez menées, et dans cet exemple un peu de la guerre impérialiste menée par Israël, quelles entreprises sont directement impliquées sur le bassin grenoblois? Comment, est-ce que... Vous voudriez en parler.
Je vais essayer de commencer, mais juste avant de répondre à la question, on enregistre aujourd'hui, c'est le 15 mai, donc c'est quand même la Nakba, c'est la commémoration de la Nakba, qui est quand même continue, donc je voulais juste attirer ça, j'ai oublié de le dire dans l'intro. Mais sinon, je commence à répondre. Comme je l'ai un peu mentionné dans l'intro, forcément ST, c'est ST Microélectronique, donc à Crolles et à Grenoble, une boîte qui fabrique des puces électroniques, comme on l'a dit, et bien impliqué dans ce génocide, c'est-à-dire que par le fait d'avoir des partenaires, des boîtes israéliennes partenaires, dont, comme je peux citer quelques boîtes israéliennes de Applied Materials, Nova, Intel et plein d'autres, mais aussi on peut parler de l'installation de ST directement en Israël. ST en trois centres en Israël, et je laisse... aussi la vérification des dates, puisque je ne suis pas très fort pour les dates après. Mais le dernier a été ouvert en 2018. C'était un centre, ce qu'ils appellent un centre d'innovation. Et un des gros buts de ce centre-là, c'est de faire un accélérateur de start-up israélienne qui s'appelle ST-Up.
ST-Up Accélérateur.
Ah non. Exactement.
Oh.
Et si vous allez un peu sur leur site, déjà la liste est un peu opaque, donc on ne peut pas savoir toutes les startups qui ont été créées par ou ont été aidées par ST en Israël. Mais je peux en citer deux exemples que j'ai notés ici devant moi. La première, c'est une startup qui s'appelle Infinidome, qui fait ce qu'ils appellent du brouillage des signaux GPS. Et leur premier partenaire, c'est une autre boîte israélienne qui s'appelle Cognata, qui, elle, travaille directement avec l'armée israélienne. Donc, le lien est très, très, très direct. Et cette boîte a été soutenue par ST et a même gagné des prix des meilleures startups. Sinon, je peux aussi citer deux autres grandes boîtes à Grenoble. La première, c'est l'INRED. L'INRED, c'est une boîte qui était une startup du CEA, du CEA Leti à Grenoble. CEA Leti, c'est un centre de recherche entre deux casquettes, on va dire, entre la recherche et l'industrie. Et leur but principal, c'est de développer des technologies qui peuvent après monter des startups autour, dont ST en faisait partie dans les années 90 d'ailleurs. Et donc, INRED, dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des capteurs infrarouges, mais 80% de leur marché, c'est un marché d'armement, c'est dans l'économie de l'armement. Et donc, on a vu déjà des enquêtes menées par l'Obsarm il y a 2 ans on a trouvé des puces de ST et de l'INRED dans les armes russes. Mais pareil, on les trouve aussi dans toutes les armes partout dans le monde, dont Israël. Et donc, les liens, encore une fois, ils ont des partenariats de partout avec plein de boîtes israéliennes, dont Elbit, qui est une des plus grandes boîtes d'armement.
Qui est une boîte israélienne.
Qui est une boîte israélienne, excusez-moi. Ouais. J'avais un troisième exemple que je voulais mentionner, où je peux peut-être faire un petit commentaire sur la Presqu'île et sur le Campus Giant, qui est une sorte de consortium qui combine beaucoup d'acteurs, soit académiques, soit industriels. Et donc le Campus Giant organise tous les ans un forum avec d'autres campus d'innovation un peu partout dans le monde. Et un de ces campus-là, c'est le Technion en Israël, qui est un campus qui fait partie de l'industrie de l'armement israélienne. Et donc, tous les ans, il y a des gens de Technion qui viennent ici, qui donnent des présentations pour dire « Ah, en fait, nous, on fait chez nous comme ça, donc essayez de faire comme nous. Nous, on a les grandes boîtes d'armement, donc essayez un peu de faire comme nous. » Je caricature un peu, mais c'est un peu le cas. Et donc voilà, j'ai plein d'autres exemples. Il y a beaucoup plus de boîtes à Grenoble qui sont impliquées dans ces guerres-là, et surtout dans la guerre que mène Israël en Palestine et à Gaza. Je vais arrêter de parler parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais je peux en reparler après. Jasperol, pour toi.
Vous allez vous compléter, je pense, de toute façon.
Ouais. Kevin, tu voulais compléter sur l'urgence palestine ou bien...
Je peux remettre un peu un contexte du coup entre la France et Israël.
Ouais, vas-y.
Enfin, on pourrait croire que du coup c'est la France qui apprend à Israël la technologie, ce qui était le cas du coup à la création de l'État, parce que du coup même s'il y a Stéphane Chouchan du coup qui est l'ambassadeur et directeur de ST en Israël, qui dit être le grand frère, que la France a le rôle de grand frère pour Israël, en fait c'est plutôt la France qui allait chercher Israël dans les années 95 aussi pour son avance technologique au niveau des drones. Du coup, il faut se le remettre en tête, parce que même si la France, elle a tendance à dire « on est les meilleurs en tout », ils sont plus demandeurs. Israël, vu que Grenoble, c'est beaucoup la recherche, je voulais juste faire un petit point sur le fait qu'il y avait donc l'Union européenne, où c'est des énormes fonds qui sont dédiés à la recherche aujourd'hui, enfin depuis longtemps en fait, et que Israël, même si c'est un des seuls pays au monde à ne pas avoir de frontières reconnues, et aussi qui violent les droits de l'homme. Ils font partie des pays qui viennent chercher, qui sont dans les secteurs de recherche, la recherche européenne, il y a des projets, et du coup Israël participe à ces projets. Voilà. Alors qu'ils sont hors de l'Union européenne, donc c'est le seul pays aussi... démocratique du Moyen-Orient, mais qui a d'abord été 20 ans militaire, puis ça fait 70 ans, soit 40 ans que c'est un pays en état d'urgence continuelle, quoi. Et donc là-dessus, voilà, c'était pour dire pour finir le contexte. Par exemple, ST travaille avec Mobileye, qui est du coup une boîte israélienne. Et si Mobileye, ils le disent dans un rapport sénatorial, ça s'intéresse à la France, c'est aussi parce que c'est un débouché quoi, pour eux. Donc voilà, ça s'imprègne, ça se dilue, aussi bien l'économie que les doctrines.
Merci. Peut-être on peut rappeler aussi le petit lien entre Grenoble et l'Israël, avec le gymnase de Rehovot. Depuis 1984, en fait, la ville est jumelée à une ville universitaire. Ça, vous le savez, je pense, tous autour de la table.
En fait, il y a un des plus gros instituts israéliens, c'est l'Institut Weizmann. C'est un institut public et j'ai pas exactement... je sais qu'il y a des recherches en biotechnologie, en physique, en microbiologie. Et peut-être, moi, j'ai vu ça. Après, je sais pas exactement... les liens, on va dire le nombre de chercheurs qui transitent entre Grenoble et l'Institut Weizmann. Voilà, j'ai pas forcément là pour le coup de chiffres exacts, mais je sais que c'est à cause de ça qu'il y a, à la base c'est un partenariat avec l'Institut Joseph Fourier, l'Institut des sciences dures plutôt.
Université Joseph Fourier.
Université Joseph Fourier.
Université partie sciences dures de l'Université Grenoble-Alpes maintenant.
Et du coup, Urgence Palestine lutte et demande de signer, par exemple, une pétition contre le jumelage de Rehovot. Voilà, pour que Grenoble cesse, en fait, aussi son lien institutionnel. Si je ne me trompe pas, c'est ça.
C'est exactement ça.
On a parlé de l'INRED, et en fait, c'est vrai que... Pour ma part, j'ai l'impression qu'à Grenoble, il y a soit des entreprises et des start-up qu'on appelle dual, c'est-à-dire qui font à la fois du civil et du militaire. Et souvent, c'est très dur. C'est très dur de savoir exactement où vont les puces. Et elles transitent souvent elles transitent sous forme civile. Et puis, des fois, après, elles servent dans les armements. On ne sait pas trop.
Comme c'est le cas pour ST, par exemple.
Comme c'est le cas pour ST.
C'est-à-dire qu'on a des puces qui servent à la fois pour n'importe quel smartphone.
Les contrôleurs STM32, ils servent dans les machines à laver. Ils peuvent servir dans les drones, quoi. Du coup, c'est très compliqué. Par contre... L'INRED, c'est vraiment une boîte qui fait du militaire, qui a été créée, justement, tu le disais, par le CEA Leti, pour assurer les capteurs infrarouges de l'armée française à la base.
Donc, et concrètement, faire quoi? De la détection de personnes de nuit,
c'est ça, c'est la détection de personnes ou de véhicules avec des personnes dedans, etc., pour avoir des cibles. En fait, c'est les yeux. Souvent, on dit que l'INRED, c'est les yeux de l'armement français la nuit. Et on dit qu'ST, souvent, c'est le cerveau, quoi. C'est un peu le... On dit que souvent, pour une puce Lindren, t'as une puce ST, quoi. Voilà. Et par contre, ça, c'est une boîte qui fait prioritairement du militaire. Et sur Grenoble, on a essayé, notamment aussi avec Romain, peut-être si tu veux en parler, on a essayé un peu de mener des luttes contre cette méga entreprise, parce qu'elle est pas mal impliquée, notamment sur le campus de Grenoble. Je sais pas si tu veux...
Oui, peut-être qu'on peut ajouter, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de choses qui ne sont pas belles, mais qui sont en réalité légales. Ce qu'on peut rajouter, c'est quand même qu'il y a des choses pas très légales qui se passent autour de l'INRED et d'ST, et notamment, effectivement, les puces qui sont utilisées dans un contexte d'armement. On a découvert qu'elles ont été vendues à la Russie en contournement explicite des embargos. Donc ça, pour le coup, c'est complètement illégal. C'est des choses qu'on a essayé de mettre en avant. Moi, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai une double casquette. Je fais partie de l'université de Grenoble-Alpes. Et en fait, on a mené des luttes aussi en interne pour dénoncer le fait qu'au sein de l'université, dans le cadre de la recherche, il y a beaucoup d'investissements qui transitent de ces boîtes. Et en fait, l'université se tait là-dessus, veut nous faire taire également. on peut dénoncer plein de choses, mais pas les contextes d'armement et de pognon. Là, ça grince des dents. Et donc, en fait, ces choses-là sont sues, elles ont été dénoncées par des journalistes, voilà, Grenoble tente de le couvrir, de le cacher. L'autre point qui n'a pas été mentionné, c'est qu'on parle beaucoup d'université dans son acception recherche, mais en réalité, ces boîtes-là ont aussi un intérêt très fort de s'intégrer, de s'implanter à l'intérieur des instituts d'enseignement. Et notamment, comme on parlait de l'INRED, l'un des trucs récents qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert une chaire de recherche et enseignement qui s'appelle DeepRed, chaire qui s'est... publicisé en tant que chaire d'application de développement d'outils d'intelligence artificielle à portée civile, sachant qu'on parle de l'INRED, qui est une boîte à 80% effectivement de production militaire, en plein contexte de toutes ces guerres, en plein contournement des embargos, etc. Et le fait est, pour avoir suivi le dossier, que les productions explicites de la recherche au sein de DeepRed, elles sont complètement militaires. C'est très très clair. Donc on est en train de pousser des actions au sein de l'université pour dénoncer ça, pour le désinvisibiliser, pour le montrer aux étudiants et étudiantes qui sont touchés par cette chaire-là, parce que là on est toujours sur le côté recherche, mais en fait cette chaire, elle a pour propension aussi d'aller donner des cours, donner des stages, donner des projets au sein des écoles de Grenoble INP, qui les accueillent les bras ouverts, parce que les écoles, on leur a dit, ce sera que du civil. Et effectivement, dans la plaquette, dans les vidéos, etc., tout ça, c'est extrêmement civil, c'est très beau. C'est des radars, des capteurs qu'on met à l'intérieur des voitures connectées qui ne vont pas écraser mémé lorsqu'elles traversent les passages piétons. C'est explicitement ça qui est montré dans les vidéos. Le fait est que la production, en tout cas académique, elle est complètement militaire. Et donc ça, les élèves commencent à s'en rendre compte, commencent à manifester. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les moyens d'action. Mais c'est ce qui se passe vraiment. C'est pas qu'une imprégnation sur un niveau élevé, amont de la recherche. C'est aussi au sein des écoles. Et ils essayent de recruter massivement. Et peut-être qu'on en reparlera après, mais pour ST, c'est exactement la même chose. Le fait qu'on leur mette beaucoup de pression aujourd'hui avec Stop Micro, ça les oblige Ça a pour conséquence, en tout cas, que le grand public, monsieur, madame, tout le monde qui jusque-là adulait ST, travaillait chez ST, c'était quand même le Graal ici à Grenoble. Maintenant, ils sont en train de retourner leur veste parce que ST, ça connote des problèmes avec la question de l'accaparement d'eau. Ça commence à toucher des questions aussi de à quoi servent ces fameuses puces. Et donc, les élèves commencent à se retirer aussi, ne veulent plus travailler chez ST. Donc, ST revient plus encore en force au sein des écoles de Grenoble INP pour leur dire si, c'est bien ce qu'on fait, avec moult greenwashing et moult mensonges qu'on continue à dénoncer. Et c'est extrêmement intéressant que ces tensions commencent à apparaître, en fait. Mais donc, voilà, à nouveau, ce n'est pas que de la recherche, c'est aussi au sein du tissu d'enseignement.
À des moments, qu'est-ce qui se cache derrière un usage civil, et notamment... Par exemple, est-ce que le contrôle d'une frontière et des personnes qui essayent de le passer, est-ce que un usage policier, etc., sont considérés comme des usages civils ou c'est déjà de l'ordre du militaire? Parce que la frontière, elle est encore plus poreuse, je dirais, quand on parle de ça. C'est-à-dire, est-ce que le contrôle d'une frontière avec des militaires qui contrôlent cette frontière, c'est pour autant considéré comme un usage civil? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi des fois une manière pour l'Union européenne d'injecter massivement de l'argent dans l'armement, c'est par exemple de dire on en a besoin pour le maintien de l'ordre, on en a besoin, enfin voilà, est-ce que...
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a certaines armes de maintien de l'ordre qui sont considérées comme militaires, notamment les lanceurs de grenades, il me semble que c'est considéré comme du militaire, mais tout ce qui est technologie de surveillance, etc., c'est civil.
Oui, c'est ça.
Et voilà. Et du coup, on bascule dans une autre catégorie, voilà, il n'y a pas besoin de laisser passer, etc. Vraiment, du coup oui, ça dépend. Et les puces typiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué de les caser dans l'usage militaire. Souvent, c'est très... À part certaines puces, maintenant, on commence un peu à voir, nous... Il y a certaines puces qui ont, par exemple, des normes américaines et des normes pour pouvoir... ça s'appelle les normes ITAR. C'est les normes qui permettent de diffuser dans le marché américain de la défense. Et là, quand c'est marqué sur une puce ITAR free, souvent, c'est une puce qui va servir pour l'armée. C'est une puce qui va servir pour du militaire, souvent. Voilà. Et c'est compliqué. Hein. C'est hyper compliqué, ces trucs-là. Et puis, mais sinon, la plupart des puces, elles passent comme de l'usage civil. Voilà.
Je peux rajouter un point, par contre, qui est extrêmement intéressant et qui permet de vraiment bien comprendre que Grenoble, c'est un foyer de production d'outils à usage militaire. C'est que les boîtes telles que ST, telles que Soytech, notamment... sont des boîtes qui ont émergé de technologies. Alors, il faut bien comprendre qu'avoir une boîte comme ST qui produit de la microélectronique en France, vu les salaires français, c'est pas du tout rentable et pas du tout compétitif par rapport à ce qui se passe en Asie. Donc, la raison même d'existence de ces boîtes-là, c'est parce qu'elles sont sur des niches particulières. Les outils d'ST ne servent pas dans vos téléphones portables. La fameuse souveraineté nationale qui est promulguée par le gouvernement ST qui justifie pourquoi on a besoin de mettre autant d'argent dedans, c'est pas pour vos téléphone portable, ils n'ont pas ces technos-là. Par contre, les technos de ST, comme de Soytech, et surtout de Soytech, c'est des technos qui sont des technos de niche qui ont des spécificités, notamment pour les puces en question, de supporter des environnements assez spécifiques, notamment des environnements à haute radiation. C'est comme ça que Soytech est né. En fait, Soytech, c'est une boîte qui fait du silicium, donc c'est le substrat sur lequel on va graver les puces. Et ce substrat-là, il a la particularité d'être extrêmement capable de supporter des irradiations. À quoi ça sert? Ça sert à être mis dans des bombes atomiques. Et le fait est, et ça a été rappelé par une commission parlementaire à destination de la défense récemment encore, le gouvernement ne veut surtout pas que ST et Soytech s'effondrent parce que c'est un intérêt stratégique pour la dissuasion nucléaire encore aujourd'hui, et peut-être encore à plus forte raison aujourd'hui. Ces boîtes, elles servent vraiment, elles sont nées initialement de ça. Et donc, on ne sait pas exactement quel est le pourcentage de production à destination militaire, mais le fait est qu'elles sont nées là-dessus, elles sont sur ce créneau-là, c'est ce qui les fait vivre massivement.
Je peux juste rajouter quelque chose sur l'usage dual des applications. Ce matin, j'étais à un colloque à l'école de management de Grenoble, donc j'aime. Et j'ai participé, il y avait beaucoup de PME qui parlaient de souveraineté nationale et de technologies innovantes françaises. Et je vais juste donner un exemple d'une boîte qui s'appelle Squadrone, une boîte à Grenoble qui fait des drones pour des usages militaires. Et j'ai écrit dans mes notes juste une citation de la personne, du PDG de cette boîte-là, qui dit qu'il faut qu'on trouve des applications civiles pour drones militaires. Comme ça, on peut produire en masse, puisqu'on vit dans une économie de guerre, même si on est en paix.
Et oui, ça me fait venir à la question du financement. C'est-à-dire, ce que moi, je pressens, et ça, vous allez en parler mieux que moi, c'est qu'il y a des vases communicants entre civils et militaires, et que des fois, on va chercher d'un côté, et des fois, on va chercher dans l'autre, et c'est comme ça qu'on fait fonctionner cette économie-là. Est-ce qu'il y en a un qui peut prendre la parole là-dessus ou...
Il y a un des financements, c'est tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle les plans nano. Dans les régions grenobloises, c'est le financement de la microélectronique et nous aussi de la nanoélectronique. Et c'est des financements, la plupart sont, c'est la région, la métro et le département et aussi l'État. Et ce qui est financé prioritairement, c'est le CEA et les startups du CEA, issus du CEA. Du coup, habituellement, c'est ST Microélectronique, c'est une startup du CEA, Soitec, Linred, etc. Suite un peu au remous qui a été fait autour de ces boîtes, le plan Nano 2026, ils ont décidé de plus financer les grosses boîtes. En plus, ils disent, bon, en fait, elles n'ont pas besoin de tant d'argent que ça. Déjà, Macron, il leur donne des milliards au niveau local. On n'a pas besoin de leur donner 10 millions d'euros, ça ne sert à rien. Et du coup, ils vont financer des startups. Et du coup, nous, on s'est un peu penché sur les nouvelles startups qu'ils vont financer. Et on a trouvé deux perles, Diamfab et une autre qui s'appelle EASIC, c'est ça ?
EAS2IC. Ouais.
Et ces deux startups-là, parmi 5-6, elles font aussi du militaire, quoi. Du coup, en fait, ça, c'est, du coup, si j'ai bien compris, la métro va financer à hauteur de 3,7 millions ces boîtes, ces petites PME-là. Du coup, ça, c'est un type de financement sur 5 ans. D'encouragement de la microélectronique grenobloise, mais peut-être toi tu connais d'autres types de financement.
Oui, moi je voulais peut-être revenir sur un contexte encore plus global, c'est même mon sujet de recherche, je peux en parler un peu, sur le fait que ces technologies-là, c'est les technologies les plus avancées du monde. Hein. Les technologies qui permettent de graver des transistors de super petite taille, il y en a des milliards maintenant dans quelques centimètres carrés dans vos téléphones portables, ça coûte extrêmement cher, mais surtout c'est une chaîne de valeur qui part de la mine jusqu'à votre téléphone portable, qui est extrêmement profonde et qui est si chère qu'il faut des investissements massifs pour les assumer. Donc il faut que les États mettent beaucoup beaucoup de pognon dedans. Quand on parle de 3 milliards, c'est pas négligeable, hein. Le budget de l'État, c'est 600 milliards je crois par an, c'est pas une goutte d'eau du coup.
Donc là c'est 3 milliards pour
ST, pardon, pour le développement de ST, c'est 3 milliards donc donnés par l'État, donc de votre portefeuille, ça veut dire de votre poche, hein, ça veut dire 160 euros par personne, par foyer fiscal en France, hein, partout en France, donc nous et comme les autres. Si on parle des technologies les plus avancées du monde qui sont produites à Taïwan, on parle de centaines de milliards qui sont investis par les États, mais ce n'est pas suffisant, c'est largement pas suffisant. Et tout le reste de l'argent qui permet de financer ça, ben ça vient des ventes d'autres choses. Donc en fait, pour pouvoir faire du militaire de haut vol et pour pouvoir faire de la souveraineté nationale, comme c'est dit, il faut en fait vendre plein de merde par ailleurs. C'est obligé. C'est pour ça que ces boîtes sont aussi financées pour produire plein de tout et de n'importe quoi. ST, ce qu'ils font, hein, outre du militaire, c'est ce qu'on appelle de l'IoT, de l'Internet des objets. C'est du gadget électronique pour tout et n'importe quoi. Et ils ont besoin de vendre ça pour assurer le socle de base qui leur permet de faire, in fine, ce qu'on va vous vendre comme des IRM. Et ce que nous, on sait aussi être des appareils militaires de haute voltige. Ce qui permet de comprendre par ailleurs, hein, qu'on a compris cette histoire de chaîne de valeur extrêmement profonde qui doit être extrêmement large pour pouvoir assumer les coûts, ça permet de comprendre que demain, non, on ne vivra pas dans un monde avec seulement des IRM. Quand on vous dit, bon, bah, tout ça va devoir se contracter, etc., on va juste garder ce qui est utile. On ne peut pas garder un monde qu'avec des choses belles dans la microélectronique. C'est pour ça que le contexte qu'on pose, nous, au sein de Stop Micro, je sors un peu du sujet, mais c'est vraiment une vision beaucoup plus globale de qu'est-ce qu'on fait de ce monde hyper technologisé qui va se contracter et qui implique derrière, bah, plein de choses qui vont s'effondrer. Donc ça repose la question des choix de société.
Donc il y a une dimension un peu greenwashing de cacher le fait qu'on fait du militaire, mais il y a aussi une dimension financière, un enjeu financier à assurer la pérennité, on va dire, financière de la boîte, quoi.
Ouais, tout à fait. Il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle survive pour qu'elle puisse. C'est exactement.
Et donc
ce que
la création de nouveaux besoins ou des choses.
Il y a la gourde connectée en ce moment qui est très rigolo.
Qui prévient quand elle est vide ?
Non, qui prévient quand vous devez avoir soif. En fait, elle sonne à un certain moment où elle vibre, etc.
Sur votre smartphone, vous saurez que vous avez besoin de boire maintenant.
C'est très intéressant comme éclairage, en tout cas. Comment, en fait, de nos... par rapport à ST, la flotte, tout ça, on est bien. Non, réellement, je crois qu'on touche à un levier là, c'est-à-dire qu'eux ils ont le levier de création d'objets connectés infinis quoi, pour pouvoir aussi financer toute cette histoire.
Et pour ça, créer des besoins. Oui. Les besoins n'existent plus. Donc, il faut les créer, il faut induire, créer les besoins, faire de la publicité, vendre tout et n'importe quoi, de sorte à avoir une défense une défense nationale. Sachant que d'ailleurs, la défense nationale seule, c'est pas pour ça qu'on produit les armes, hein. on n'est pas en guerre, donc du coup, il n'y a rien à vendre. Massivement, ce qu'ils font, c'est vendre à l'étranger, hein, tout ce qu'on a besoin de circuits, de champs de bataille pour vendre les outils.
J'ai une toute petite précision. En fait, on estime que pour le tissu, le complexe militaro-industriel français, il fonctionne. Il faut qu'on exporte à peu près entre 40 et 60% du matériel. En fait, pour qu'il y ait un retour sur investissement qui soit assez important et justement pour qu'on ait de l'argent qui arrive en masse, eh ben, il faut vendre, quoi. Il faut vendre du canon, il faut vendre... et c'est ce qui était ce matin à l'école de management. Ils étaient à fond. En fait, les guerres qu'il y a en ce moment, c'est une nouvelle opportunité. C'est pas pour rien que l'école de management, mais aussi plein d'autres organismes qui, là, se frottent les mains en ce moment avec tout ce qui se passe en Palestine ou je sais pas, dans tous les autres théâtres d'opérations, quoi.
Pour reciter la même personne, le PDG de Squadron, je vais retrouver mes notes, mais c'est pas ça.
Entre autres, moi, je peux dire qu'il y avait un secrétaire d'État américain là, qui disait récemment que la guerre en Israël, c'est une situation win-win pour...
Voilà, donc ça revient à la même chose. Lui, il a dit l'Ukraine, c'est un laboratoire extraordinaire pour tester nos drones. Et donc, si on teste nos drones en Ukraine, on peut après les vendre au ministère des armées ici ou à d'autres armées un peu partout ailleurs.
Il existe aussi une sorte de label israélien, sur la question de technique testée sur terrain. Ça vous parle, ça ?
Moi, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que le complexe industriel et militaro-industriel d'Israël dit qu'on a testé nos armes sur les Palestiniens, donc à Gaza, soit... cette année, l'année dernière, ou soit il y a 3 ans, soit il y a 7 ans, soit il y a... Bon, voilà, ça fait 16 ans. On les a testés, ça marche bien, regardez, on peut revendre nos armes aux États-Unis, par exemple, et vous savez très bien que c'est battle-proofed, je ne sais pas comment le dire, mais que ça fonctionne sur les gens, ça tue bien.
Mais en France aussi, ça s'appelle combat-proof, ou je ne sais pas quoi, et en fait, en gros, par exemple... le Rafale, c'est notre super avion de chasse qu'on vend partout aujourd'hui. Il a commencé à être vendu à partir du moment où on a commencé à l'employer en Afghanistan en 2012. Et les images et la compétitivité de cet avion de chasse a pu être démontré sur le terrain. Et c'est après 2012 qu'on a réussi à vendre nos Rafales. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Les armes ne se vendent pas au début. En fait, il faut qu'elles soient testées. En fait, c'est dramatique de dire ça, mais ça fonctionne comme ça. En fait, les militaires sont aussi une armée d'exposition, et notamment l'armée française. C'est une armée d'exposition de l'armement français à l'étranger, au Sahel, en Afghanistan ou ailleurs, quoi, pour après pouvoir vendre des armes, quoi.
Voilà. Je vais peut-être juste rebondir sur ça et sur l'usage dual. Et en plus, c'est une thématique locale. Dans la ville de Moiran, juste à côté de Grenoble, il y a une boîte israélienne qui s'appelle Briefcam, qui est une boîte de surveillance. Donc, c'est techniquement pas un usage militaire de la technologie, mais c'est quand même un usage de surveillance qui essaye toujours avec la mairie de Moiran, je ne sais plus qui est responsable de ça, mais la mairie ou la région ou le département, d'installer des caméras de surveillance un peu partout dans la ville. Et cette boîte vend ces caméras et ces systèmes de reconnaissance faciale que ça a été prouvé sur les frontières palestiniennes, sur les contrôles de la population palestinienne dans Israël et aussi dans Palestine occupée, et Cisjordanie et Gaza. Et donc, bah, là, c'est aussi le fait que bah, c'est les technologies israéliennes qui reviennent chez nous, qui sont acceptées, qui sont même encouragées pour venir nous surveiller dans ce cas-là.
Et qui montre encore que la frontière entre civil et militaire, elle est de plus en plus mince, quoi.
Oui, parce que là, on est que... Enfin, du coup, c'est les caméras, du coup, c'est ouais. que du civil. Bon, par contre, c'est utilisé en Israël aussi sur de la reconnaissance faciale, et du coup, c'est sur un système raciste d'apartheid, quoi.
Le temps tourne un peu, on enchaînera sur un petit montage qui montre aussi la dimension extractiviste et le fait que... Là, on parle surtout des usages, on va dire, militaires des puces, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point eh ben, la fabrication de puces ici génère de la guerre ailleurs, et notamment bah, dans la région des Grands Lacs et au sud Kivu du Congo. Voilà. Du coup, on a un petit montage qui est extrait d'une émission qui a été diffusée hier sur Radio Campus, qui s'appelle « Le coup des smartphones ».
La deuxième guerre du Congo, c'est la guerre des minerais. C'est la guerre, encore une fois, des richesses qu'on a sur le Congo. D'abord, première explication, ceux qui ont fait la guerre pour chasser Mobutu et du côté rwandais, éliminer la menace, je mets des gros guillemets, qui représentait ces populations sur le régime rwandais. Il va y avoir des dissonances parce que du parti congolais, on va dire, bon voilà, vous avez atteint votre objectif, nous aussi, partez. Non. Parce que la guerre, ça se finance, ils sont assis sur une manne innombrable, des minerais. Et, pas de chance, c'est le boom de l'économie électronique, on est dans les années 97. Et il se trouve que les minerais dont on a besoin pour l'électronique se trouvent encore une fois sur ces territoires, et c'est plus de 80% du coltan mondial qui provient de la RDC, plus de 60% du cobalt qui provient de la RDC. Bref, c'est quand même assez énorme. Et donc... il va y avoir la deuxième guerre du Congo, ou plutôt, on appelle ça la deuxième guerre mondiale africaine. Chaque parti a des puissances derrière, en fait, qui les soutient. Et en fait, on va avoir une prolifération des bandes armées, illicites, bien évidemment, dans ces territoires. On va avoir des compagnies extractivistes occidentales qui vont aller sur ces territoires signés. Des accords d'affaires avec des bandes armées non régulières sur ces territoires. Et la guerre va faire plus de 6 millions de morts. Entre 1997 et 2014, plus de 6 millions de morts. Plus de 11 000 femmes violées par semaine. Le viol deviendra une arme de guerre. À cette époque de la deuxième guerre du Congo, on va violer les femmes pour accaparer les territoires. Pour faire peur à toutes les populations et accaparer les territoires. C'est ça l'histoire de la colonisation au Congo. Et aujourd'hui, elle continue. Elle continue par ce forme du néocolonialisme où on va corrompre massivement, à grande échelle, toute forme d'autorité.
On s'est réintéressé, je dirais, à l'Afrique dans les années 90, et notamment l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, le conflit congolais correspond exactement avec l'avènement de la téléphonie mobile et plus généralement de cette révolution numérique qui arrive début années 2000. Et finalement, au moment où on parle d'une révolution numérique, c'est une révolution d'ailleurs qu'on considère souvent comme sociale, culturelle, anthropologique ou je ne sais quoi, et finalement, c'est avant tout une révolution capitaliste et matérielle au sens où il a bien fallu diversifier les métaux et les produire et les extraire en quantité pour assurer cette dite révolution numérique.
La manière d'extraire des minerais au Congo, elle s'est faite de trois façons. Industrielle, ça suppose corruption des élites politiques. Artisanale, comprenait utilisation des enfants dans des mines, comprenait des éboulements de terres, des enfouissements de terres dans lesquels il y a des mineurs. Comprenait également la guerre. C'est-à-dire qu'on va violer, tuer pour s'accaparer des territoires afin de satisfaire les besoins de l'économie électronique et par conséquent du numérique. Voilà la nouvelle colonisation en fait de nos territoires aujourd'hui. Ce n'est plus une colonisation au nom du caoutchouc. Aujourd'hui, c'est au nom des minerais qui servent de l'économie électronique et encore plus dangereux, qui vont servir une cause prétendument noble, la transition écologique pour construire un monde décarboné, une bulle décarbonée des pays riches. Ces minerais servent essentiellement pour l'économie électronique, encore une fois. On va les retrouver dans les condensateurs de nos outils électroniques. On va également les retrouver dans nos batteries. Les batteries des téléphones, des ordinateurs, enfin bref, un certain nombre d'utilisations, mais également des utilisations dites stratégiques, c'est plutôt pour faire la guerre. Donc c'est extrêmement utilisé pour ça. On en retrouve également pour l'économie verte, pour la transition écologique. Donc on le retrouvera dans tout ce qui va être les voitures électriques. On va le retrouver dans tout ce qui va être également les panneaux solaires, les éoliennes.
C'est parti.
Eh bien, vous êtes toujours du coup sur Radio Campus et sur l'émission Micro-ondes, l'émission qui relaye les luttes locales sur l'agglomération. On parle surtout aujourd'hui doublement des luttes anti-technologiques et des luttes anti-impérialistes et qui aujourd'hui se retrouvent autour d'une seule et même question, la fabrication des armes et des technologies nécessaires aux armes dans l'utilisation des guerres impérialistes. On vient du coup d'écouter l'extrait d'une émission qui a été diffusée donc hier sur Radio Campus et qui fait partie d'un cycle qui s'appelle « Le coup des smartphones ». Qui est du coup notamment une interview croisée entre David Menda Kitoko, un militant congolais, et Fabien Lebrun, qui parle des conséquences du coup de l'extraction minière. Et il me semble que du coup, ça refait le pont avec cette dimension impérialiste. J'ai l'impression qu'on a une boucle là, c'est-à-dire qu'on a des politiques impérialistes qui sèment le chaos quelque part pour s'accaparer des richesses, pour construire des technologies, pour finalement quelque part rediffuser la guerre ailleurs. Enfin, on a un moment parlé de comment ces technologies sont testées dans un contexte impérialiste, comment elles sont appliquées dans un contexte impérialiste, comment elles ont besoin aussi de ce contexte impérialiste pour s'accaparer ces richesses. Enfin, est-ce que vous avez envie de rebondir sur ces questions?
Effectivement, en fait, il y a le mot d'ordre de souveraineté nationale qui est avancé par ST en ce moment pour justifier son agrandissement, et il y a le mot d'ordre de les puces, on en a besoin pour la transition, la fameuse transition énergétique écologique. Le fait est que ça a été démontré scientifiquement de longue date que c'est faux et que la transition numérique est plutôt un facteur d'aggravation. C'est, moi j'appelle ça un catalyseur de la destruction planétaire, hein. Ça sert vraiment, ça a cet usage. Il n'y a pas de baisse de CO2 associée à l'usage du numérique, et au contraire, le transfert supposé, parce qu'il n'est même pas vrai, des émissions de CO2 vers les métaux qui sont nécessaires à la production de microélectronique est tellement colossal qu'on n'imagine même pas aujourd'hui être capable de tenir les rythmes de l'extractivisme qui va être induit. Et donc là, ce qui est dit sur le Congo, hein, c'est que du fait de la croissance qui continue de l'intelligence artificielle, des usages du numérique à tout va, la pression à la fois écologique et géopolitique sur ces régions-là va ne faire que s'accroître. Et donc ce qui n'est pas dit dans cet extrait-là, mais il le dit en général dans ses conférences, c'est que lui, il a très très peur d'une fameuse troisième guerre mondiale africaine du fait de ce nouveau boom associé à l'intelligence artificielle et à tous ces nouveaux besoins de la microélectronique. Donc effectivement, ce qui se passe à Grenoble, parce qu'il y a il y a une localisation très particulière dans un pays du Nord global d'une usine qui est d'habitude est ailleurs dans le sud global, on commence à ressentir viscéralement au sein de la population que c'est pas normal, que ça pompe beaucoup de flotte, que ça rejette massivement des déchets dans l'Isère, et qu'effectivement il y a des usages pas très très sains, mais ça occulte complètement, ça invisibilise malgré tout le fait que tous ces matériaux qui permettent cette production, ils viennent du sud global et ils impliquent en fait ces horreurs à l'extérieur de nos frontières. Mais de fait, la lutte, elle est intéressante du coup. La lutte locale, elle permet de mettre le focus là-dessus, de mettre l'attention du public là-dessus. Le public qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas pour Stop Micro en tout cas, se sent effectivement viscéralement atteint dans la question de l'accaparement de l'eau, des ressources en eau, sachant qu'on est dans des périodes de pénurie et ça va s'aggraver. Et ça, ça permet de mettre le projecteur sur ces entreprises-là pour continuer à questionner et aller au-delà. Et je pense que ça David peut permettre d'avoir un assentiment plus en plus important du public qui va pouvoir, au bout d'un moment, se regarder ce qui s'y passe, en fait. Et qu'effectivement, cet impérialisme-là, ces arguments complètement ineptes, ce qui se cache derrière, c'est une destruction massive de la population mondiale, enfin, d'autres, des humains et non-humains de partout ailleurs sur la planète, qui est là depuis très 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 longtemps, mais qui va être de plus en plus visible, en fait.
Ce qui fait la passerelle aussi avec vous, Urgence Palestine, du coup, donc comment on lutte contre ça, comment on se mobilise un peu sur ces questions?
Ouais, j'aurais préféré juste commencer avec une petite analogie entre le cas du Congo, qui est un cas où extraction de ressources à n'importe quel prix, c'est-à-dire à tous les prix possibles, avec... en tuant tout et n'importe quoi. En Israël aussi, maintenant, il y a des fonderies. Donc, comme l'usine de ST ici à Grenoble, il y a des usines de fonderies qui produisent des puces en Israël. Et c'est un des plus grands, c'est un des plus grands vendeurs de puces en termes de nombre d'entreprises et en termes de chiffre de puces vendues partout dans le monde. À Grenoble, les boîtes d'électronique n'achètent pas que leurs puces à ST, ils achètent aussi leurs puces à Tower Semiconductor, qui est une boîte de semi-conducteurs en Israël, ou d'autres. Et pourquoi c'est facile de faire une fonderie en Israël? Puisque déjà, tu prends l'eau que tu ne donnes pas aux Palestiniens, que tu voles aux Palestiniens, qui souffrent à Gaza maintenant d'une famine, même le mot famine ne suffit pas. Mais aussi avant, où la quantité d'eau par personne par jour était même pas la moitié de la quantité d'eau qui était recommandée par, je sais pas, un truc de l'ONU,
L'OMS ou...
Ouais, voilà, l'OMS, exactement. Et donc, là, ça revient un peu en mode extractivisme dans un autre pays où on méprise la population locale. Et Israël, c'est un outil impérialiste pour ça. Donc ça, c'est l'exemple de l'électronique avec Israël. Il y a plein d'autres exemples sur aussi qu'est-ce qui se passe en termes de la nature palestinienne en général, les arbres natifs et qui sont brûlés ou qui sont remplacés par des espèces envahissantes. Et donc ça revient toujours à cette destruction des terres et à ce greenwashing, on a besoin des puces pour la transition écologique, sauf que la production des puces, c'est tout sauf vraiment la transition écologique, c'est plutôt le contraire.
Oui, et puis ils se servent aussi de l'occupation pour pouvoir arriver à amener leur économie et leur production.
Exactement, oui, bien sûr. Oui.
En petit mot un peu de la fin, parce que l'heure tourne malheureusement, du coup, comment... on lutte ici contre ce qui se passe là-bas, puisqu'on le voit, une grosse partie des conséquences, que ce soit dans l'utilisation ou dans l'extraction des minerais, se passe. Enfin, il y a des choses locales, puis il y a des choses qui se passent là-bas. Donc voilà, comment on fait le lien entre tout ça? Est-ce que...
Déjà, peut-être un premier point, c'est de mentionner... moi, j'aime bien quand on a une figure, une star locale, qui s'appelle Raymond Avrillier, qui souvent commence ses présentations en disant on est encore pendant quelques semaines en République. Bon, on n'est pas en démocratie en France, mais par contre, on est encore pendant quelques semaines en République. Cette radio, elle va tourner demain, encore un petit peu. Donc, on peut le faire. Et quand on sait ce qui se passe, on doit le faire. Se mettre en mouvement, c'est vraiment la meilleure réaction à avoir. Le sentiment de fatalisme, c'est... j'ai perdu le nom. Ce sentiment de... Oui, c'est Maria Miss, féministe qui dit ça, que le désespoir et le fatalisme, c'est encore un luxe que peuvent se permettre les gens qui profitent du pillage du reste de la planète. Donc le fait de se dire, qu'est-ce que je peux faire? De toute façon, ces boîtes, ST va s'agrandir. En fait, le fait de dire ça, c'est précisément pour moi, c'est une offense envers le reste du monde qui est en train d'en souffrir et qui va en souffrir encore de plus en plus. alors qu'on a en pouvoir d'agir, de bouger, de se liguer, de se mobiliser, parce qu'effectivement, on est encore un petit peu en République, on peut le faire, et c'est ce qu'on fait au sein de Stop Micro, c'est ce qui a fait qu'on a rassemblé 2000 personnes la dernière fois sur notre grande manifestation. On peut désinvisibiliser, on peut toucher les étudiants, on peut toucher les chercheurs, on a des pouvoirs d'agir différents, chacun et chacune. Et je pense qu'il faut juste tout faire pour, à nouveau, montrer ce que c'est que ces boîtes, remobiliser les gens autour de d'autres choix de société. C'est pas une fatalité que de devoir vivre avec ST Microelectronics ici sur un territoire qu'il est en train de ravager, non seulement pour les histoires d'accaparement d'eau, de pollution, etc., mais au-delà. On pourrait décider d'un autre choix de vie pour le Grésivaudan, pour le monde de notre génération déjà et de celle à venir. Et ça, on peut encore le faire. On a ce pouvoir. Il y a quelques. Donc, nous, au sein de ST Microelectronics, on a. De Stop Micro. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas un agent double. Au sein de Stop Micro, on a plein de commissions. Une commission juridique avec des juristes qui nous ont rejoints. On a une commission enquête avec des gens qui regardent et fouillent les papiers. On a une commission recherche avec des chercheurs. On a une commission action avec des gens qui ont envie de se bouger. Il y a plein de choses que tout le monde, tout un chacun peut faire. Donc rejoignez-nous, contactez-nous. On a un site web. Et je pense que trouver une communauté d'attachement de personnes qui partagent les mêmes valeurs, ça permet une mise en mouvement et ça permet de rompre avec cette fatalité et ce désespoir un petit peu ambiant qui est très, très, très attirant par ailleurs dans notre société de la grande flatterie des objets qu'on peut vous vendre et puis qui est vachement utile pour le capitalisme en fait, de croire qu'on ne peut rien faire. Donc voilà, c'est ça que j'appelle à faire.
Urgence Palestine.
Où commencer ? Comment lutter, c'est d'en parler, déjà, de se renseigner, d'être pas fataliste, je suis très d'accord. C'est exactement ça, c'est une arme contre nous de se dire qu'on peut rien faire. Si, on peut faire plein de choses. Nous, en sein d'Urgence Palestine, ce qu'on fait, c'est qu'on se mobilise déjà, car il y a un génocide qui se passe maintenant, donc on essaye d'être le plus visible possible. En faisant des manifestations pour la Palestine, soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines. Donc vous allez forcément nous voir dans les rues. On essaye aussi de faire des travaux de recherche pour justement de quoi on a parlé pendant toute cette émission. On est aussi en contact avec plein d'autres luttes locales, dans Stop Micro, dans des luttes queer. Vous allez nous voir à la Pride, par exemple. Donc, on est là. Rejoignez-nous si vous sentez que vous avez d'autres idées aussi à nous ramener, comment on peut mieux mener nos luttes ensemble. Et après, il y a aussi tout l'aspect du boycott, donc de BDS, boycott des investissements et sanctions. C'est-à-dire, on fait des travaux pour dire que ces boîtes-là, ces entreprises-là travaillent avec Israël directement ou indirectement, mais probablement directement parce que c'est très facile à trouver. Un exemple très simple. Non,
quelques noms comme ça, ça peut.
Un exemple très simple, Carrefour en des énormes enseignes dans toutes les colonies en Cisjordanie. Carrefour donne des munitions pour l'armée israélienne pendant leur guerre génocidaire maintenant à Gaza. Et donc, on a des carrefours autour de nous, partout à Grenoble. Il faut juste arrêter d'aller acheter chez eux. Il faut essayer de dire aux gens qui travaillent là-dedans qu'ils travaillent pour une boîte complice d'un génocide, et pas juste un seul, mais de ce génocide. Et il faut parler autour de nous que c'est du boycott. C'est du boycott, et le boycott, il a marché dans le cas d'Afrique du Sud, moyennement. Il a un peu marché dans le cas de l'Afrique du Sud. On s'inspire... Le mouvement palestinien en général depuis super longtemps, depuis 2005, le mouvement BDS est là depuis 2005, s'inspire fortement du modèle sud-africain sur les aspects de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Les sanctions, ça ne vient pas directement de nous, mais ça vient de notre pression sur nos politiciens. Et donc c'est un outil très simple aussi à faire pour lutter d'une manière vraiment qui ne va même pas nous imposer... un inconfort, même si c'est pas ça le but.
Et du coup, bah,
pour finir là sur BDS aussi, c'est d'inviter les gens. Donc il y a des organisations, comme, des collectifs comme ST ou à Palestine, mais du coup de faire de la veille. Et du coup, si vous voyez des événements sportifs, ou si vous avez des contacts syndicaux ou quoi, de pouvoir vous rapprocher de collectifs. Je dis événements sportifs parce que BDS, c'est aussi les institutions et la culture. Et du coup, quand il y a des entreprises qui sont dans les campagnes de boycott, et ben c'est de pouvoir les visibiliser pour montrer qu'elles sont coupables. Et aussi aider à organiser des convs, des concerts pour se faire connaître, assembler des sous, et du coup se cultiver pour avoir de l'argumentation. Et juste pour finir aussi, j'invitais après cette émission aux gens de lire sous un nouvel œil les nouvelles en Nouvelle-Calédonie sur les révoltes qui a lieu aujourd'hui, et du coup aussi de voir la Nouvelle-Calédonie où il y a tout cet enjeu déjà qui devait être décolonisé de la France il y a déjà quelques années, où ça traîne la patte et que c'est une des principales mines de cobalt au monde.
Soutien au peuple kanak.
Je vais finir très 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 rapidement peut-être sur un point, parce qu'il me semble qu'il est super important sur la lutte antimilitariste. On dit souvent que la lutte antimilitariste, c'est vraiment celle qui se remplit à gouttes d'eau, et chaque événement vide le verre, en fait. Parce que les gens ont peur. Le militaire, c'est vraiment un truc qui nous touche. On se dit, il faut se défendre. On a vraiment besoin de se défendre, parce que sinon, les autres vont nous attaquer. Et en fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre avec ces entreprises dont on parle aujourd'hui, c'est qu'elles ne produisent pas de l'armement pour la France. On n'est pas en guerre. Elles produisent de l'armement pour ce qu'on appelle le commerce de la mort. Et le commerce de la mort, on le fait là où il y a la mort. Et la mort, elle est dehors, elle n'est pas en France. Et le fait d'accumuler des armes, c'est à ça que ça sert. Ça accumule des armes partout dans le reste de la planète. C'est incroyablement dangereux et nocif. On n'a pas envie d'alimenter ça. Parce que de fait, ça va se retourner contre nous à terme. Et on ne défend pas le pays en donnant de l'argent à des boîtes qui vont produire des armes pour la supposée défense. Ce n'est pas de la défense qu'on fait, c'est de l'attaque, c'est de la vente et à nouveau du commerce de ce théâtre de guerre. Donc ça, c'est un argument qui, je pense, est vraiment important à ressortir à chaque personne qui va vous dire « oui, mais quand même ». Il n'y a pas de « oui, mais quand même », c'est incroyablement dangereux ce qu'ils font.
C'est tous des marchands de canons.
Comme dirait Malcolm X, the chicken will come home to roost, c'est-à-dire on fabrique des armes, ça va être retourné contre nous bientôt.
Ouais, merci beaucoup pour d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre mobilisation sur ces luttes là qui aujourd'hui convergent clairement vers une même idée.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On termine par une petite chanson, et c'est l'occasion de faire un big up à une émission sur Radio Dio. Du coup, c'est une radio associative à Saint-Étienne et qui s'appelle J'irai pas. Et donc, on écoute la chanson de Brigitte Fontaine, J'irai pas. Pour retrouver Micro-Ondes, vous pouvez le retrouver en podcast sur campusgrenoble.org et rester à l'écoute du 90.8. Et puis, retrouvez-nous si vous avez envie chaque samedi de 13h à 14h. À bientôt.
J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas.